en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci cher Michel de m'avoir invité, merci à tous. Je reconnais beaucoup de visages connus, François d'Arcival, Chantal Delsol, Yvon Gattaz. Bon, je ne vais pas vous citer tous, mais si. Peut-être pas. Et Xavier Darcos, évidemment, Denis Kessler, évidemment.
Ouais.
Et donc, ça me fait très plaisir d'être aujourd'hui parmi vous et de pouvoir intervenir sur ce sujet qui me paraît être un sujet absolument fondamental. Depuis combien d'années parlons-nous de réduire le millefeuille territorial français ? Pendant que nous parlons, nos partenaires européens ont agi. Ils ont réduit. Qu'avons-nous fait ? Pas grand-chose. Et nous, nous avons toujours 40% des collectivités locales de l'Union européenne. Et nous avons aggravé le millefeuille, puisque nous avons créé les intercommunalités dans les années 70, puisque nous avons encore créé les métropoles il n'y a pas si longtemps. Et quand on regarde un peu la carte de France et la carte des élus, parce que le sujet, c'est aussi le sujet du nombre d'élus en France, on voit qu'en Île-de-France, quand on additionne les élus des communes, des intercommunalités, des départements, de la région, de la métropole, on a autant d'élus, 30 000, que d'élus au Royaume-Uni dans la totalité. Donc nous sommes vraisemblablement dans une situation où cet enchevêtrement du nombre de collectivités, du nombre d'élus, des compétences, nuit à la réforme de la France. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup ça. Alors, je voudrais d'abord commencer par un état des lieux. Hein ? On est toujours à plus de 35 700 communes. On a près de 31 000 communes qui ont moins de 2 000 habitants. Ouais. On a aussi l'échelon départemental et l'échelon régional qu'on a un petit peu réformé ces derniers temps, en réduisant le nombre de régions. Mais ce n'était pas forcément la meilleure idée pour faire des économies de la manière dont ça a été fait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu d'objectif réel de réalisation d'économies en face de la nouvelle carte des régions. J'ai d'ailleurs consulté de manière assez approfondie les budgets régionaux 2016. Et qu'est-ce qu'on constate ? Que seulement dans les régions qui n'ont pas été agrandies, notamment par exemple l'Île-de-France ou Pays de la Loire, il y a eu un petit peu d'économie. Et dans les régions qui ont été fusionnées, il y a eu des augmentations de dépenses. Donc on n'a pas atteint l'objectif d'économie grâce à la nouvelle carte. Par ailleurs, le débat sur la loi NOTRe a été totalement pathétique, dans la mesure où le gouvernement tentait quand même, et je me souviens de la prise de parole de Manuel Valls à l'Assemblée nationale, où il disait qu'il avait au départ quand même la volonté de supprimer aussi l'échelon départemental, ce qui est complètement tombé dans les limbes après beaucoup de débats, notamment avec les radicaux. Et au Sénat, que s'est-il passé ? Les transferts de compétences qui étaient prévus, par exemple, sur les collèges, les personnels techniques qui sont gérés par les départements dans les collèges, qui devaient passer aux régions, tous ces transferts de compétences-là ont été remis en question. Alors, on voit bien que les élus n'ont pas tellement envie de changer la répartition des compétences. Chaque fois que nous partons sur l'équivalent d'une révision générale des politiques publiques, par exemple, Michel s'en souvient bien, le sujet, c'était vraiment de revoir les missions publiques, de se poser la question du qui fait quoi. Aujourd'hui, on a toujours tous les échelons qui s'occupent de quasiment toutes les missions publiques. On peut prendre, par exemple, l'exemple de l'éducation. Vous prenez les communes, s'occupent des murs, des établissements, à la fois les maternelles et le primaire. Vous avez les départements qui s'occupent des collèges et des personnels techniques des collèges. Vous avez les régions qui s'occupent des lycées et des personnels techniques des lycées. Et vous avez, évidemment, les académies, l'État déconcentré et puis l'État lui-même. Et à un moment, quand on compare avec les autres pays ce que ça donne en termes de coûts administratifs et de coûts des fonctions support, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de personnel administratif dans l'enseignement en France que dans les autres pays. C'est autant d'argent qui ne va pas à la fonction d'éducation au final. Alors, c'est difficile de faire les chiffrages, parce que l'ouverture de la donnée sur toutes ces questions n'est pas du tout optimale aujourd'hui. Mais on se rend compte que l'écart, il est au moins du triple sur les personnels qui sont des personnels de fonction support en termes d'éducation sur l'ensemble du territoire français. Et bien malin qui arrive à faire la véritable addition, parce que, évidemment, c'est très compliqué. Tout ce qui devrait être externalisé aujourd'hui sur ces missions-là est géré au niveau des collectivités, alors que dans les autres pays, ils ont largement externalisé toutes les fonctions de cantine, de nettoyage, etc., et qu'ils ont au contraire décidé de gérer au niveau local toutes ces missions-là d'embauche de personnel enseignant, de gestion de l'éducation au niveau local, et notamment c'est le cas de l'Allemagne et c'est le cas de la Suède. Alors, on voit que cette question des missions va être une question centrale dans la question de réformer nos collectivités locales dans les prochaines années. Parce que l'idée, c'est pas du tout de dépouiller les collectivités locales de leurs missions, c'est de leur en donner au contraire beaucoup plus et de leur faire confiance pour ces nouvelles missions et de les responsabiliser. Et ça, c'est ce que l'État français n'arrive pas à faire non plus de son côté, parce que notre État ne veut jamais véritablement se départir d'une mission. Quand on en parle au président de région, il nous explique bien, quand ils font une réunion, le nombre de personnels qui se retrouvent autour de la table et qui représentent les directions régionales de l'État. Et donc, c'est un vrai sujet de véritable panorama nouveau qu'il faut rédiger sur ces missions publiques. Alors moi, j'ai essayé de le faire modestement dans mon livre en disant voilà l'organisation actuelle, voilà l'organisation à laquelle il faudrait aboutir, mais ça demande un consensus aussi à un moment. Ça demande aussi d'être d'accord sur le nombre de communes que nous gardons. Sur la question de l'intercommunalité, moi je trouve que l'intercommunalité, on l'a beaucoup écrit, nous met dans une situation finalement où il n'y a pas de démocratie véritablement directe, où l'intercommunalité récupère beaucoup des missions des communes tout en ayant une véritable opacité dans la gestion. Je donne un exemple. Nous avons beaucoup travaillé à la Fondation IFRAP sur les bilans sociaux des collectivités locales, des communes, des plus grandes communes, des départements, des régions. Mais alors, pour travailler sur les comptes et les bilans sociaux des intercommunalités, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus opaque. Quand vous regardez les travaux de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes sur ces questions, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'intercommunalités qui interviennent dans des missions qui ne leur ont pas été transmises par les communes dont elles sont issues. Souvent 25%. 25% des dépenses qui, en réalité, vont sur des fonctions qui ne leur ont pas été transmises par les collectivités dont elles sont l'émanation. La proposition qu'il faudrait faire pour les prochaines années, ce serait de réunir communes et intercommunalités dans un seul et même niveau, avec un plus petit nombre de maires, mais des maires qui seraient directement en contact avec la population. Et ça, les Français en sont très demandeurs, parce qu'ils ont beaucoup de mal à voir comment se gère leur intercommunalité aujourd'hui. Alors, ce que nous avons vu dans l'analyse des bilans sociaux, notamment des collectivités locales. D'abord, il faut savoir qu'on a des dépenses de fonctionnement et des dépenses de masse salariale qui ont beaucoup, beaucoup augmenté ces dernières années dans les collectivités. J'ai repris les chiffres avant de venir. C'est parfois du x2, x3 pour les intercommunalités, pour les départements. C'est du x6 pour les régions, sur les montants de masse salariale dépensés depuis le début des années 2000. Au niveau du bloc communal, donc commune et intercommunalité, on a un dérapage d'à peu près 1 milliard d'euros par an sur les dépenses de personnel. Donc, on est quand même sur un niveau d'augmentation de la dépense qui est très, très important. Pourquoi ? Parce que, comme on n'a pas vraiment décidé du qui fait quoi, eh bien, tout le monde continue à embaucher sur toutes les missions. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a aussi un problème en adéquation avec cela, qui est que les agents sont un peu perdus aussi sur la mission qu'ils ont à exercer. Donc, on se retrouve, quand on regarde les bilans sociaux, avec des niveaux d'absentéisme qui sont de pire en pire au fil des années. Alors, l'analyse, nous l'avons menée pour beaucoup de collectivités. Et dernièrement, nous avons travaillé sur les plus grandes villes de France. Alors, on arrive à des chiffres qui sont absolument incroyable dans la mesure où, par exemple, à Amiens, on est à quasiment 40 jours d'absence par agent et par an en moyenne sur la ville d'Amiens. À Marseille, 36,8. À Avignon, 35. Grenoble, 34. Donc, on est dans des niveaux très, très élevés. Par ailleurs, on voit qu'on a un écart énorme entre les agents qui sont titulaires, statutaires, et les agents qui sont contractuels, en termes de nombre de jours d'absence par agent et par an. Dans la ville d'Amiens, par exemple, si je reprends celle-là, malheureusement, toutes ne documentent pas le nombre de jours d'absence des agents. On est à 49,3 jours pour les agents titulaires et à 13 jours pour les contractuels. Et l'écart est identique pour toutes les communes. Montreuil, 45,7 versus 17. Argenteuil, 39,5 versus 22. Donc, vous voyez, l'écart est très considérable entre des personnels qui sont là avec le bénéfice du statut et d'autres qui sont embauchés sous contrat de droit public. Là, nous l'avons vu avec la ville de Montpellier, qui avait été la première d'un palmarès de l'absentéisme dans les années précédentes. Il y a un vrai sujet de certains agents qui ne sont même pas vus par leur hiérarchie pendant parfois plusieurs années. Donc il y a un problème. Non, mais le maire de Montpellier, le nouveau maire de Montpellier, le dit lui-même dans la presse, l'explique. Et on trouve sur ce sujet une deuxième difficulté, qui est celle du temps de travail négocié avec les syndicats. Alors, nous avons tellement mené ce travail-là à la Fondation IFRAP que ça a fait l'objet d'une demande par la ministre à l'époque, Madame Le Branchu, auprès de Philippe Laurent, qui est le maire de Sceaux, d'une demande de rapport sur le temps de travail des agents dans l'ensemble de nos administrations et avec un focus spécifique sur les collectivités locales. Et ce que nous avons pu montrer dans notre... dans l'audition que nous avons apportée à ce rapport et puis dans les différents travaux de la Fondation, c'est que souvent, le temps de travail dans nos collectivités locales est très largement inférieur aux 35 heures annualisées. Le temps de travail des 35 heures annualisées, c'est 1607 heures. Le temps de travail dans la plupart de nos collectivités, dont on connaît le temps de travail, il faut savoir que dans le bilan social imposé par la DGCL, donc la Direction Générale des Collectivités Locales, ne figure à aucun moment le temps de travail négocié avec les syndicats de manière annualisée. Il n'y a pas besoin de renseigner cette case, malheureusement elle n'existe pas. Donc il faut retrouver cette information au gré des rapports des chambres régionales des comptes. Alors, nous l'avons listé pour certaines villes et départements et régions que nous connaissons, mais malheureusement, le rapport Laurent n'est pas allé jusqu'à mettre une liste exhaustive en annexe sur ces questions. Par exemple, à La Rochelle, on est à 1529 heures, à Montpellier à 1572, à Marseille à 1567, à Toulouse à 1526, en Nord-Pas-de-Calais à l'époque à 1560, en Seine-Saint-Denis à 1519. Voilà. La moyenne de ce que nous avons renseigné, et malheureusement nous n'avons pas toutes les collectivités, c'est de l'ordre de 1554 heures, en moyenne pour les collectivités connues. Ça veut dire qu'on perd l'équivalent de entre 40 000 et 80 000 temps plein payés mais non travaillés en face tous les ans. Ce qui est non négligeable en termes de coûts pour la collectivité. Et là encore, je parle surtout des collectivités locales. Donc on a un très gros problème de gestion des ressources humaines dans nos collectivités locales. Mais pourquoi ? Parce que on a un principe qui est celui de l'embauche sous statut de la fonction publique territoriale, avec l'impossibilité... Alors aujourd'hui, moi je travaille beaucoup avec des élus locaux qui cherchent à valoriser les agents qui sont très motivés, qui sont présents, qui sont dévoués à leurs devoirs et leurs missions de service public. Mais le statut public les encadre énormément sur la possibilité de mettre en place des primes de présentéisme et des incitations. Par exemple, le Conseil d'État a retoqué plusieurs, prise de tentative de ce côté-là, de mettre en place des primes de présentéisme, parce que c'était pas conforme au statut de la fonction publique. Alors aujourd'hui la ville de Suresnes a mis en place une petite prime de présentéisme, mais qui est de l'ordre d'une centaine d'euros par an et qui est très très faible. Alors dans les prochaines années, on pourra imaginer soit de réformer le statut de la fonction publique territoriale et de permettre beaucoup plus la possibilité de primer les agents qui sont vraiment très présents sur leur mission, soit on peut aussi imaginer d'embaucher de manière beaucoup plus contractuelle les agents de la fonction publique territoriale. Je pense que beaucoup de directeurs généraux des services ne demandent que ça, hein. Mais et beaucoup d'élus aussi, hein, et que beaucoup d'agents, on a fait un sondage dernièrement qui vaut ce qu'il vaut, hein, chez Opinionway, sur ce sondage, sur la question du statut, on a quand même trouvé que plus de 30% des agents étaient pour la suppression du statut à vie. Hein. Donc il y a des choses qui bougent, même chez les agents, parce que moi j'ai beaucoup... Non mais c'est déjà pas mal, un tiers... C'est déjà pas mal d'avoir un tiers des agents qui sont favorables à la réforme de leur statut, tout en sachant l'importance du sujet du statut, notamment chez les syndicats de la fonction publique. Et du côté de la majorité des Français est favorable, plus de 60% est favorable à la remise en question de ce statut, notamment dans la fonction publique territoriale. Donc là, il y a... une question qui est importante, et ces derniers temps, ce qu'on peut voir, c'est que tout ce qui a été mis en place pour essayer de gérer mieux, de baisser les dépenses, a souvent fait baisser les dépenses d'investissement. Alors, on commence à avoir un fléchissement sur les dépenses de fonctionnement, mais la difficulté qu'on a sur nos collectivités locales, c'est que souvent, le bon gestionnaire ne se sent pas valorisé dans son travail, ne se sent pas poussé à encore mieux gérer. Pourquoi ? Parce que la dotation globale de fonctionnement, elle est donnée aussi en fonction, par exemple, est-ce qu'on est au maximum de son potentiel fiscal ? Est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter les impôts ? Alors c'est vrai qu'on a baissé les dépenses de fonctionnement, mais finalement, comme vous n'avez pas le maximum d'impôts, vous pourriez augmenter l'impôt. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, notre système est plus dans la prime à celui qui gère mal que dans la prime à celui qui gère bien, malheureusement. Et que le système de péréquation aussi fait en sorte que celui qui a du déficit chronique, qui génère de la dette, bien sûr, on peut générer que de la dette que sur l'investissement, hein, évidemment, dans nos collectivités locales, va pas forcément avoir de questions sur sa gestion. Hein, un département comme celui de la Seine-Saint-Denis, par exemple, où les agents ont un temps de travail très très faible, parmi les plus faibles qu'on ait été amené à voir, va pas être sanctionné sur la dotation globale de fonctionnement. Alors, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que les bons gestionnaires ne sont pas poussés à être meilleurs et à être encore meilleurs, et les mauvais gestionnaires ne sont pas poussés à s'améliorer. Donc, pour les prochaines années, il faudra certainement revoir ce dispositif-là et imaginer un système de bonus-malus qui encourage les bons gestionnaires. Le problème, c'est que nous avons une vision qui n'est pas du tout une vision de concurrence fiscale, c'est-à-dire celui qui est le plus attractif fiscalement, qui va attirer le plus d'entreprises, qui va attirer le plus de ménages, qui va avoir la meilleure gestion publique, qui va permettre d'avoir les taxes pour les entreprises et les ménages les plus faibles, on n'est pas dans cette logique-là. Pourquoi ? Et j'en ai discuté souvent avec le président de l'Association des régions de France, parce qu'on n'a pas cette idée qu'il faut mettre en concurrence nos territoires. Et ça, à un moment, peut-être qu'il faudra y arriver. Ça ne veut pas dire être dans une concurrence acharnée, mais ça veut dire être dans la mise en place de bonnes pratiques, dans l'aboutissement de la réflexion jusqu'au bout. C'est-à-dire que, par exemple, quand on dit que les régions sont chargées de l'attractivité économique, il faut bien se dire que l'attractivité économique, elle est aussi liée au poids de l'impôt dans les collectivités. Moi, j'ai regardé toute la carte du poids de l'impôt par salarié dans les entreprises. Quand vous regardez cette carte-là, vous voyez qu'au nord, par exemple, au sud, en PACA, il y a beaucoup plus d'impôts par salarié dans chaque entreprise que, par exemple, en Bretagne, qu'en Pays de la Loire. Vous vous rendez compte aussi qu'il y a moins de chômage dans les territoires où les salariés sont moins imposés par salarié au niveau de l'entreprise. Donc, on est dans un lien qui est très fort entre fiscalité et chômage. Et la fiscalité vient aussi de la question de la dépense. Donc, dans les prochaines années, je pense qu'il faudra qu'on ait une vision beaucoup plus dynamique de ces questions. Aujourd'hui, on en est au balbutiement. Nous avons créé les communes nouvelles. Alors, il s'en crée il y en a un petit peu plus, peut-être 300 l'année dernière, 180 depuis le début de l'année. C'est très bien. Mais il n'y a pas d'objectif en face d'économie. À aucun moment. Et oui. Mais c'est un problème. C'est comme sur la nouvelle carte des régions. On nous avait dit 5 milliards d'euros d'économies. Alors, bien sûr, c'était surévalué. Ne retenons pas ce chiffre. Le chiffre maximum, c'est plutôt peut-être autour de 1,5 milliard qu'on aurait pu espérer d'économies. Mais là, ça va plutôt être, si je fais le calcul brièvement, de l'ordre de 2,5 milliards de dépenses en plus. Le problème des communes nouvelles, c'est que c'est très bien, mais qu'on risque de garder plein de maires délégués, on risque de garder l'ensemble de la dépense et de ne se concentrer à aucun moment non plus sur le fait de réduire la dépense de fonctionnement pour favoriser l'investissement. Puisque vous savez qu'une grosse partie de l'investissement, 70% de l'investissement en France, se fait au niveau des collectivités locales. Et 40 milliards d'euros par an à l'intérieur au niveau du bloc communal. Donc c'est pas rien pour l'investissement dans notre pays. Alors, si on veut regarder un petit peu, parce que ce sera mon point numéro 2, ce que proposent les candidats à la présidence sur ce sujet. On va faire un petit tour d'horizon, bref, puisqu'on est en pleine campagne et que ce soir il y a un débat, peut-être qu'on parlera un petit peu des collectivités locales, on n'en sait rien. Les propositions restent un peu sur l'écume des choses. Alors, il y a quand même l'idée, si on prend d'abord Emmanuel Macron, d'aller vers plus d'autonomie, de déconcentration, de simplifier, de supprimer certains départements dans les zones les plus urbanisées et structurées, mais de les garder dans les zones rurales, de réduire le millefeuille administratif. Alors, ensuite, il dit qu'il veut supprimer un quart des départements, mais il ne dit pas véritablement comment il réduit le nombre de communes, est-ce qu'il garde l'échelon intercommunal, etc. Du côté de François Fillon, il veut passer de 4 à 2 échelons, avec un référendum constitutionnel, avec une fusion progressive des départements et des régions, la suppression de la métropole de Paris qui doublonne avec l'Île-de-France, mais ça, tout le monde l'avait compris. On est même allé jusqu'au luxe d'avoir exactement le même nombre d'élus siégeant dans les deux hémicycles, 209, ce qui est quand même assez humoristique. Le partage des compétences entre l'État et les collectivités, avec un meilleur partage des compétences, mais il ne dit pas ce que l'État va céder comme compétences aux collectivités. Donc, on reste encore dans le flou en termes de quelles sont les compétences transférées. Et toujours une politique de décentralisation. Bon, Dupont-Aignan, on ne va peut-être pas en parler, mais Marine Le Pen dit qu'elle conserverait 3 niveaux d'administration au lieu de 6 actuellement. Elle garderait Sur les intercommunalités, elle voudrait supprimer les EPCI et imposer des délais de paiement. Donc ensuite, elle ne donne pas vraiment sa réorganisation. Et ensuite, les autres ne proposent pas véritablement de réforme très claire. Les économies, il y en a très peu qui proposent des économies au niveau du bloc territorial. Un petit peu François Fillon, mais il ne dit pas du tout comment il les réalise véritablement. Dans les 480 000 postes qu'il propose de supprimer, on subodore qu'il y a une grosse partie sur la territoriale, mais on ne sait pas exactement laquelle. Moi, je pense autour de 150 à 200 000, mais c'est jamais établi de manière très très claire. Du côté d'Emmanuel Macron, il propose entre 50 et 70 000 suppressions de postes au niveau de la territoriale. Donc, à ce stade, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de propositions très claires. Et je pense que, je dirais, pourquoi est-ce que les propositions ne sont pas très abouties ? Pour deux raisons. D'abord, le nombre de collectivités locales, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un nombre d'élus. Et dire clairement la réduction du nombre de communes, la fusion avec les intercommunalités, la question de la suppression ou pas du département, ça demande aussi de réduire de manière non négligeable le nombre d'élus. Alors nous avons 645 000 élus en France. Hein. Nous sommes au maximum de ce qui peut exister. Si on veut réorganiser véritablement le millefeuille français, il faudra réduire le nombre d'élus. On ne peut pas de toute façon dire aux agents publics « on va réduire votre nombre » et ne pas dire aux élus « on va réduire votre nombre ». C'est impossible. Les agents ne comprendraient pas parce qu'ils sont les premières victimes justement de l'empilement des strates publiques, notamment dans la cohérence de leur mission hein, au service des Français. Alors là, dans cette question-là, tous les candidats qui interviennent sur la question du nombre d'élus n'interviennent jamais que sur le nombre de parlementaires. Mais aucun d'entre eux ne dit qu'il va falloir supprimer les élus au niveau des intercommunalités en gardant que les communes, vraiment réduire le nombre de conseillers régionaux. Hein, on en a 1671, on a quand même réussi à réduire le nombre de régions sans réduire le nombre d'élus au niveau régional. Et vous savez tous que ça a posé des problèmes conséquents parce que les hémicycles étaient trop petits et qu'on n'arrivait pas à faire rentrer tous les conseillers régionaux dans les hémicycles parce qu'il n'y avait pas le nombre de sièges souhaités. Et ça, on l'a réussi aussi au niveau des cantons, puisque quand on a divisé par deux le nombre de cantons, on a quand même réussi à augmenter un petit peu le nombre d'élus. Donc, ce sujet-là doit être absolument traité. Nous, à la Fondation IFRAP, on propose de passer de 645 000 à 114 000 élus. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut aussi des élus bien indemnisés. Bien indemnisés. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'indemnisation des élus, notamment un président de région, comme une très grande région, avec plusieurs millions d'habitants, à 4 000 euros bruts ou 4 200 euros bruts par mois, on comprend très bien que l'indemnisation n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Quand on dit que l'indemnité de base d'un parlementaire en France est à 5 000 euros, on comprend aussi qu'il y a un problème d'indemnisation. Et ensuite, on comprend qu'il y a un cumul des mandats qui est devenu aussi important dans notre pays. Hein, jusqu'à maintenant, environ 70 à 80% des parlementaires cumulent encore aujourd'hui en France, alors que dans d'autres pays, c'est de l'ordre de 15-20%, voire beaucoup moins. Pourquoi ? Pourquoi on a empilé les strates ? Parce que les élus avaient besoin d'indemnités supplémentaires aussi. Et parce que ça permet d'avoir un niveau d'indemnisation qui est plus élevé. Mais ça, je ne dis pas ça comme une critique, je dis ça comme un constat. Et ce constat-là, il nous emmène vers l'idée qu'il faut rehausser de manière très conséquente l'indemnisation de nos élus dans les prochaines années, en diminuant leur nombre, mais en augmentant leur indemnisation. Alors, les propositions que nous faisons, elles sont toutes écrites hein, dans une étude qu'on a publiée, Mandat politique, passé de 645 à 114 000 élus, où on explique que, par exemple, un maire d'une commune de 5 000 à 10 000 habitants, ben, il faudrait qu'il soit indemnisé 4 000 euros par mois. Voilà. Voilà, c'est correct. Non, mais c'est correct. Et on n'augmente pas, en baissant le nombre d'élus, en augmentant l'indemnisation, on n'augmente pas le coût pour les deniers publics au total de l'indemnisation des élus. Aujourd'hui, on est à environ 2 milliards d'euros. Hein. On ne le baisse pas, on ne l'augmente pas, mais on revalorise. Pour un parlementaire, on dit c'est au moins 10 à 12 000 euros d'indemnisation sur lequel l'impôt est payé. Aujourd'hui, il y a l'indemnité représentative de frais de mandat que vous connaissez sûrement bien. Cette indemnité représentative de frais de mandat n'est pas imposable, il n'y a pas de justificatif, ça porte à confusion. Voilà, on le rend imposable. S'il y a des frais, il y a des justificatifs. Bon. Et dans les prochaines années, il faudra absolument que les présidents de conseils régionaux, les maires de grandes villes comme les maires de petites villes soient indemnisés à la hauteur de leur travail pour la collectivité. Ça évitera beaucoup de création aussi de sociétés publiques locales, de sociétés d'économie mixte, qui sont des satellites très difficiles à évaluer et autant de satellites qui gravitent autour de nos collectivités et dont nous avons du mal à évaluer aussi le lien avec les politiques dans beaucoup de circonstances. Là encore, c'est vrai, ça va demander de la transparence. Ça va demander un changement de façon de voir le mandat local. Le mandat local n'est pas un emploi, n'est pas un poste, n'est pas la propriété de l'élu. C'est une mission pour un temps X. J'ai eu beaucoup de débats avec des élus locaux qui me disaient « mais vous voulez supprimer des postes d'élus ?» J'aurais dit « non ». Ce n'est pas des postes, ce sont des mandats. Et il y a pas de... Il me dit, mais moi, je suis élu depuis 80... Oui, mais peut-être que justement, c'est pour ça qu'on a du mal à réformer la France. Parce qu'il n'y a pas aussi assez de mouvement dans le personnel politique, que ce soit le personnel politique national ou local. Alors, si j'en viens à l'idée qu'on se fait... De la réforme. Moi, j'ai essayé de donner dans mon livre un calendrier des réformes avec, mois après mois, les grands chantiers à mener pendant le prochain quinquennat. N'y voyez aucune prétention, il n'y a pas d'exhaustivité possible en la matière. Hein. D'abord, personne ne sait ce qui va se passer. Et ensuite, évidemment, on peut oublier des choses, ça peut être parcellaire, etc. Mais l'idée que j'ai, c'est de dire, voilà, on met sur la table un projet, et puis, il peut servir, autant que faire se peut. Alors, l'idée, c'est d'abord de passer des ordonnances, avec, pour le symbole, une ordonnance qui dirait, on essaie de geler les embauches au niveau de l'État pendant les deux premières années, et au niveau des collectivités pendant les deux dernières années, parce que sur les collectivités, ça va demander une réforme constitutionnelle. Et le gel des embauches dans les collectivités, vous l'avez bien compris, ça passe aussi par le respect de ratios de bonne gestion. Parce que vous ne pouvez pas décider au niveau central de geler. Puisque vous avez des collectivités qui sont bien gérées, qui ont besoin d'embaucher, et des collectivités qui sont mal gérées, qui au contraire devront réduire de manière importante le nombre de personnels. Ces ratios, il va falloir y travailler dès l'arrivée du prochain gouvernement au pouvoir. C'est ce qu'ont fait les Italiens, c'est ce que font beaucoup de pays, tout en respectant le principe d'autonomie, de libre administration de nos collectivités locales. Et là, je crois que la DGCL a tous les outils en main pour donner ses objectifs de bonne gestion. En fonction des strates, bien sûr, ce ne sera pas le même objectif pour une commune qui a 10 000 habitants que pour une commune de 100 000 ou pour une région, c'est évident. Mais c'est ce qu'il va falloir mettre en place avec ce système de bonus-malus qui a été très largement évoqué. Hein, je ne suis pas la première à en parler. Il y a eu des tas de rapports de l'Inspection générale des finances sur ces questions disant qu'il fallait qu'on change complètement la façon de gérer notamment la DGF en la matière. Ensuite, l'idée de fixer le temps de travail dans l'ensemble de nos administrations, non plus à 1607 heures, mais beaucoup plus haut, à 1750 heures. Alors évidemment, c'est un changement important et ça demande qu'en face, on puisse récompenser les agents avec un système de primes qui soit beaucoup plus individualisé. Aujourd'hui, vous savez bien que les primes ne sont pas du tout individualisées dans l'ensemble de nos administrations. Elles sont très liées au grade, au poste, à l'ancienneté. Oui. Il y a un tout petit peu d'individualisation, mais très faible. Très faible, quand même. Très, très faible. Et par ailleurs, les régimes indemnitaires sont très peu connus. Hein. Avoir en main le régime indemnitaire d'une collectivité en France, il faut avoir bien ses entrées. Hein. Parce que nous avons réussi à récupérer le régime indemnitaire de l'État avec le livre blanc de l'Office national de paye, qui d'ailleurs était un sujet secret défense. Hein, donc on a réussi à trouver un agent qui a eu la gentillesse de nous passer le document qui fait 4000 pages. Et on a réussi à travailler sur les 1581 primes au niveau de l'État. Mais au niveau des collectivités, quand vous voulez savoir le régime indemnitaire d'une région ou d'un département, on a cherché ça au moment où justement des agents devaient être transférés des départements aux régions avec la nouvelle carte. Et on s'était posé la question de, tiens, si on alignait tout le monde par le haut, ce qui est souvent le risque en France, combien ça va coûter ? Eh bien, il était totalement impossible de récupérer les régimes indemnitaires des départements et des régions. Ça, je peux vous dire que c'est impossible de l'extérieur. Alors, de l'intérieur, vraisemblablement, certains d'entre vous me diront que c'est tout à fait facile. Et ceux qui ont l'information, ben je serais très, très heureuse qu'ils nous transmettent les régimes indemnitaires en la matière. Mais je suis subodore que je n'aurai pas beaucoup de réponses. Ensuite, l'idée... Et donc, bon, bien sûr, vous avez compris que l'idée de l'augmentation du temps de travail, c'est aussi l'idée de pallier à la suppression... le non-renouvellement de pas mal de postes au niveau territorial dans les prochaines années, que nous avons estimé à de l'ordre de 184 000 postes. Hein. Sachant que des départs en retraite dans les collectivités locales, il y en aura 58 000 par an pendant les prochaines années. Donc il y a beaucoup de départs en retraite et qu'il faut bien faire comprendre aux Français que ce ne sont pas des licenciements, ce sont tout simplement des non-renouvellements de départs en retraite pour les prochaines années. Après, dans une réforme constitutionnelle, il faudra prévoir la suppression des départements, la fixation d'un minimum d'habitants par commune, excepté vraisemblablement pour les zones de montagne, sur lesquelles, là, c'est plus compliqué. Et oui, c'est plus compliqué. Et on en a déjà souvent parlé. Donc, je pense qu'en zone de montagne, on fera une exception. Alors, ça représente quand même plus de 6000 communes. Hein, mais là, il faudra voir comment on peut gérer le sujet, sachant que des communes avec plus d'habitants, qui seront en fait du niveau interco, seront plutôt dans la capacité à avoir beaucoup plus de responsabilités, notamment au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, et seront beaucoup plus en possibilité d'apporter des services aux citoyens que ne le sont les toutes petites communes aujourd'hui. Ensuite, vous l'avez compris, c'est la question du réduction du nombre d'élus que j'ai déjà évoqué. La question des bonus-malus qu'il faudra aussi intégrer et la décentralisation des compétences avec les transferts de compétences que j'ai déjà évoqués, notamment au niveau de l'éducation et de la culture, avec l'idée que l'État et de Pôle emploi aussi, hein, parce que l'idée, ce serait de transférer au niveau régional la question du placement, du suivi, de l'indemnisation des chômeurs, parce qu'aujourd'hui, on voit les lacunes de la centralisation de ce système. Évidemment, à gauche comme à droite, beaucoup de connaisseurs du sujet sont tout à fait d'accord pour la régionalisation de Pôle emploi, pour donner plus de pouvoir aux régions sur ce sujet. Le problème, c'est qu'évidemment, dans la logique paritaire qui est celle de nos syndicats, à la fois du côté du patronat et du côté des syndicats de salariés, cette régionalisation de Pôle emploi ne passe pas du tout. Hein. Il y a eu d'ailleurs des communiqués de presse communs entre les syndicats de salariés et les syndicats du patronat pour dire qu'il fallait surtout pas remettre en question le caractère de la gestion centralisée de Pôle emploi. Donc, sur cette question-là, bien sûr, comme sur la question de la décentralisation de la gestion de l'éducation, les syndicats seront pas forcément supporteurs, évidemment. On voit bien qu'en éducation, ce qui a été transféré, c'est uniquement les fonctions qui sont les fonctions plus support que les fonctions d'enseignement. Ensuite, vous l'avez compris, l'idée sera de faire un suivi de la qualité des services publics, parce que le sujet n'est pas simplement de réduire le nombre d'agents, de réduire la dépense, de réduire le nombre d'élus. Le sujet, c'est que les Français aient en face des impôts qu'ils paient un service public de qualité et de meilleure qualité que ce qu'ils ont aujourd'hui en payant quand même beaucoup plus cher que les pays, que dans les pays environnants. Hein. On est à 44,5 taux de prélèvement, enfin, pourcent de taux de prélèvement obligatoire aujourd'hui en France. On est à 38 ou à 36 en Allemagne et au Royaume-Uni. Hein. On a un écart de 10,5 points, nous dit la Cour des comptes, de dépenses publiques au total par rapport à nos voisins européens de la zone euro. Et ça s'est beaucoup aggravé depuis 2010, puisqu'on était à 7,5 en 2010. Évidemment, nos collectivités locales ne sont pas celles qui dépensent le plus au total, hein, puisque quand vous prenez un land allemand ou une région espagnole, les budgets sont beaucoup plus conséquents. Pourquoi ? Parce que la responsabilisation des collectivités est beaucoup plus importante aussi, et que leurs missions sont beaucoup plus importantes. Donc nous, on a préféré émietter les responsabilités entre beaucoup d'acteurs, avec l'incapacité du côté des Français de voir qui est responsable de quelle politique publique, et plutôt que de donner à moins de collectivités plus de pouvoir et plus de responsabilités vis-à-vis des citoyens. Et ça, moi, je le vois bien au niveau local, où on dit, mais qui est responsable de la mauvaise qualité de l'enseignement dans tel ou tel établissement? Eh bien, c'est pas vraiment le département, c'est pas vraiment l'État déconcentré, c'est pas vraiment l'État, c'est pas le chef d'établissement parce qu'il n'est pas vraiment chef d'établissement. Et à la fin, il y a une dilution totale par les financements croisés, par l'enchevêtrement des compétences, des responsabilités sur la qualité du service public. Je pense que dans les prochaines années, ces sujets-là vont devenir centraux, en tout cas je l'espère, et en tout cas pendant le prochain quinquennat, j'espère qu'on mettra enfin en marche cette réforme, même si évidemment ni les syndicats ni les élus ne sont très supporteurs, mais je crois que les Français sont très en attente de ces réformes. Sur l'ensemble de la dépense territoriale, nous évaluons à de l'ordre de 8,5 milliards l'économie potentielle, avec une grosse partie quand même sur les dépenses de masse salariale, avec de l'ordre de 5 milliards d'économies sur le volet territorial. Alors tout ça, on l'a chiffré évidemment de manière assez précise. Par ailleurs, juste un petit exemple, aujourd'hui, il y a une action extérieure des collectivités locales dont l'évaluation est quasiment impossible puisqu'il n'y a pas de centralisation des informations. La dernière évaluation portait à peu près sur 250 millions d'euros par an. On peut se demander pourquoi il y a des investissements, enfin, entre guillemets, des dépenses en la matière au niveau des collectivités, alors qu'il y a déjà plus de 9 milliards d'euros dépensés par l'État sur la question de l'action extérieure. Donc, cette réorganisation des missions publiques permettra de revenir sur le millefeuille territorial, permettra de faire des économies et permettra aussi de mieux évaluer au niveau local la qualité des services publics. Je crois beaucoup que les citoyens ont envie aussi, au niveau local, de regarder comment se gère leur collectivité. Beaucoup d'associations se montent aujourd'hui sur ces questions. L'open data aussi, la transparence de la gestion publique sera très importante. Il faudra, bien sûr, sur la question, par exemple, d'un bilan social, pourquoi est-ce que le bilan social est obligatoire pour les collectivités et pourquoi il n'est pas mis en ligne automatiquement? Pourquoi est-ce qu'il faut saisir la commission d'accès aux documents administratifs pour avoir les informations de gestion sur nos collectivités? Là, la loi de 78, elle reste encore un peu faible par rapport à cette question, puisqu'on saisit une commission qui n'a pas de pouvoir de sanction, alors que le tout citoyen doit pouvoir accéder aux documents de gestion administratifs. Donc dans les prochaines années, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire évidemment en la matière et j'espère avoir donné un canevas de réflexion sur ce sujet et quelques pistes de réforme.
Merci.